Jeudi 10 décembre 2020, l'école des disciples, la prière des heures. La liturgie des heures est en effet une des formes peut-être les plus universelles et les plus importantes de la prière. C'est en quelque sorte la prière officielle de l'Église et pour introduire cette causerie, je vous lis un passage de David Gabillet, qui est le rédacteur en chef du Magnificat, et qui nous dit tout simplement qu'un aspect essentiel de la prière, c'est d'être le don du temps. Le temps s'écoule irréversiblement pour tous les hommes, mais l'Écriture nous rappelle qu'il fait partie de la création. Le temps est un don divin qui ouvre un espace de rencontre dans lequel le Seigneur se fait connaître au cours de l'histoire. Car Dieu nous donne aussi le temps. Temps passé avec les hommes tout au long de l'histoire biblique pour nous révéler l'amour qu'il nous porte et qui trouve son sommet dans l'incarnation du Fils que nous allons fêter à Noël et le don de sa moins anonyme ou bien collaborer à sa sanctification, la sanctification du temps, en faisant mémoire des merveilles de Dieu. Tout comme par notre... Nous sommes appelés à devenir les bâtisseurs du temps, à habiter par notre prière le temps présent, à le savourer, à le magnifier par la qualité de nos relations avec les autres, nourries par la relation avec Dieu que cette prière, cette liturgie des heures nous donnera, pour hâter, préparer le jour où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Monseigneur André Coligny, qui a été archevêque de Toulouse de 1976 à 1996, appelait la prière l'holocauste du temps. La prière, c'est ce temps que nous arrachons à toutes les activités qui nous dispersent pour le consacrer entièrement, l'holocauste, ce qui est complètement brûlé, le consacrer entièrement à Dieu. Et effectivement, la liturgie des heures, c'est tout d'abord cela, l'offrande d'un morceau de notre temps que nous arrachons à nos activités habituelles pour le consacrer entièrement à Dieu. Cet holocauste du temps, cette offrande totale est une sanctification. Dans le Notre Père, nous disons à Dieu que ton nom soit sanctifié. Eh bien, dans la liturgie des heures, nous voulons aussi sanctifier, rendre saint ce temps. C'est-à-dire, en fait, accomplir une action de passeur. Nous faisons passer notre temps humain dans l'éternel présent de Dieu. Et nous faisons aussi passer l'éternel présent de Dieu dans notre temps humain. Ce qui fait que le temps passé avec Dieu n'est en rien un temps perdu. Et si l'on prend le sens de passé au sens du temps, eh bien ce temps passé avec Dieu n'est pas passé. Parce qu'il est transformé, transmué, transporté dans cet éternel présent de Dieu. Ainsi, la liturgie des heures fait passer notre présent à Dieu et fait passer Dieu dans notre présent. C'est dire que le long de nos jours, la durée de nos vies, par la liturgie des heures, a déjà une saveur d'éternité, de plénitude, de véritable réussite. Alors, cette offrande, cet holocauste du temps, nous est permise par la régularité de la liturgie des heures. Nous verrons plus tard quelle est sa structure, comment le matin, le midi, le soir, la nuit, nous apprivoisons en fait notre temps pour l'adapter au rythme de Dieu et nous introduisons le rythme de Dieu dans notre temps. Et nous accomplissons ainsi notre vocation en quelque sorte de passeur. Alors dans cet acte où nous prions, en particulier les psaumes, dans la liturgie des heures, même si nous sommes tout seuls, en fait, nous ne sommes jamais seuls. Car la prière des heures est une prière en quelque sorte planétaire. Et chaque fois que nous disons une heure de la liturgie des heures, eh bien, il y a sur la planète quelques communautés, quelques personnes qui, comme nous, quels que soient les fuseaux horaires, même si nous ne sommes pas toujours fidèles à dire la liturgie des heures dans la vérité des heures, c'est-à-dire si parfois nous disons la prière du matin un peu plus trop près de midi, ou si nous disons la prière du soir un petit peu trop près du milieu de l'après-midi, car il faut bien insérer ces heures canoniales, ces heures canoniques, ces heures que les monastères et les priants habituels respectent, il faut bien les insérer dans le flot de nos journées. Mais quelle que soit l'heure à laquelle nous prions, cette liturgie des heures, eh bien il y a sur la planète d'autres communautés, d'autres personnes qui célèbrent en même temps que nous. Et donc, finalement, la liturgie des heures nous fait entrer dans cette prière continuelle qui est la prière de l'Église. L'Église en prière, l'Église en quelque sorte qui accomplit officiellement sa nature de prier Dieu pour le monde et d'amener aussi le monde à Dieu. Car la liturgie des heures n'est pas une liturgie égoïste. La liturgie des heures comprend, au moins le matin et le soir, un temps d'intercession où nous sommes invités à présenter précisément, à faire passer notre monde, nos intentions dans le cœur de Dieu pour que Dieu nous donne la force d'être exaucés et de transformer le monde. Ainsi, la prière des heures n'est pas un luxe, n'est pas réservée à quelques moines ou à quelques consacrés, mais elle est une des façons d'accomplir ce que le Concile Vatican II nous a appris à identifier comme le sacerdoce des baptisés. Nous sommes tous prêtres du sacerdoce des baptisés et nous recevons à notre baptême une triple mission de prêtre, de prophète et de roi. Roi, nous sommes invités à gérer la création là où nous avons quelques pouvoir pour l'organiser dans le sens de la fraternité, de la solidarité, de la venue du royaume. Prophète, nous sommes invités par notre action et si possible par notre parole à témoigner de l'Écriture, à témoigner de Dieu, à témoigner de l'Évangile. Et nous sommes prêtres chargés de consacrer le monde. Et c'est précisément par la liturgie des heures que nous pouvons accomplir en plénitude cet office de baptiser prêtres chargés d'offrir à Dieu le sacrifice de leurs lèvres et le sacrifice de leur cœur, le sacrifice de leur temps. La liturgie des heures est donc une liturgie apostolique, pas seulement parce que tout ça nous a été transmis par les apôtres, mais parce que c'est l'âme de notre apostolat. Si nous voulons être témoins, être acteurs de l'évangélisation, eh bien la prière des heures nous façonne ce cœur d'apôtre qui nous rapproche de Dieu, qui rapproche Dieu des hommes et qui nous fait, en consacrant le temps des hommes, notre temps, consacrer aussi notre monde et la vie de tous ceux pour qui nous prions. Cette liturgie des heures nous rend donc contemporains de cet éternel présent de Dieu, nous rend contemporains du présent très réel que sont en train de vivre les membres de l'humanité, mais aussi la liturgie des heures a un autre avantage qui n'est pas négligeable. La liturgie des heures, en effet, nous fait partager déjà la liturgie céleste, celle dont parle l'Apocalypse, où nous sommes unis à la prière des anges, des saints, des âmes défuntes, de toutes ces personnes, de tous ces membres du monde invisible qui prient en même temps que nous et qui, avec nous, célèbrent les louanges de Dieu, nous dans le temps et eux déjà dans l'éternité. C'est donc une familiarisation que la prière des heures nous invite à vivre déjà avec le monde réussi, avec le royaume des cieux, avec le paradis. Nous voyons donc ainsi comment, dans cette prière, dans cette liturgie des heures, nous ne sommes jamais seuls. Et nous sommes surtout, alors, si l'on peut dire, seuls, mais avec le seul. C'est dire que si la liturgie des heures nous unit à tout ce qui la célèbre en même temps que nous, si elle nous unit à toute l'humanité que nous portons dans notre prière, si elle nous unit à toutes les créatures célestes, eh bien, elle nous unit aussi à Dieu, le seul. Et le moine, qui est historiquement, si l'on peut dire, le premier à avoir véritablement développé toute la panoplie de la liturgie des heures, le moine est seul avec le seul. C'est dire que cette solitude, bien sûr, est habitée de tout le reste du monde, mais qu'elle est d'abord attention portée au seul qui mérite finalement qu'on lui porte attention, car il est le Créateur, car il est le Rédempteur, car il est notre origine et notre destin. La liturgie des heures nous met en contact avec Dieu. Pas avec Dieu de façon théorique, j'allais dire de façon générique, mais avec véritablement le Dieu que nous a révélé Jésus, le Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Car en effet, la liturgie des heures, comme toute prière, a pour destinataire premier le Père. Nous parlons beaucoup du Fils, nous parlons un petit peu de l'Esprit-Saint, mais mis à part la prière du Notre Père, nous avons peut-être trop peu conscience que le véritable destinataire de nos prières par le Fils et dans l'Esprit, c'est le Père. Et donc la prière des heures est d'abord une louange adressée au Père, car c'est le Père qui nous a voulu, c'est le Père par le Fils, par le Verbe de Dieu, par sa parole éternelle qui nous a créés, c'est le Père qui a mis en nous l'Esprit, qui fait de nous des êtres vivants, comme le dit le deuxième chapitre de la Genèse. Les mains du Christ, selon l'intention du Père, ont façonné notre matière et ont insufflé l'Esprit, l'Esprit Saint, qui fait de nous des êtres vivants, créés à l'image et à la ressemblance du Christ. Et donc, lorsque nous développons, nous faisons être cette louange des heures, nous nous adressons au Père et nous entrons pour cela dans la prière de Jésus. Car la liturgie des heures, ce n'est pas simplement et même pas principalement nous qui prions Dieu, c'est le Christ qui prie en nous. Et c'est pourquoi nous sommes introduits tout logiquement dans la vie trinitaire, dans le royaume de Dieu où les hommes sauvés, ressuscités avec les anges et toutes les puissances de Dieu sont introduites dans cette vie trinitaire. Car la prière, en fait, c'est un contact. C'est un contact vital avec ce qui fait l'essentiel de l'existence divine, c'est-à-dire la relation éternelle d'amour parfait, de joie complète entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Lorsque donc nous effectuons cette prière des heures, en fait, nous laissons un espace en nous pour que le Christ dise tout son amour au Père et pour que le Père manifeste tout son amour au Fils. Et évidemment, cela est possible dans l'Esprit, qui est le lien entre le Père et le Fils. On peut donc aussi dire, en toute vérité, que l'Esprit réalise en nous la prière éternelle que le Fils adresse au Père. Alors, saint Augustin a très joliment décrit ce phénomène et il nous dit, quand il décrit cette relation que nous développons avec Dieu dans la prière, Dieu n'aurait pas pu faire aux hommes un plus grand don que celui-ci. De son Verbe, il a créé toutes choses. Il fait leur chef, et d'eux, il fait leur chef, c'est-à-dire leur tête, et des hommes, il fait ses membres pour que lui soit fils de Dieu et fils de l'homme, un seul Dieu avec le Père, un seul homme avec les hommes. Pour qu'en parlant à Dieu dans la prière, nous ne séparions pas de lui son Fils, pour qu'en priant, le corps du Fils ne se sépare pas de son chef, de sa tête, pour qu'il soit l'unique sauveur de son corps. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui à la fois prie pour nous, prie en nous et est prié par nous. Il prie pour nous comme notre prêtre, il prie en nous comme notre tête, il est prié par nous comme notre Dieu. Reconnaissons donc nos paroles en lui et ses paroles en nous. C'est ce que nous faisons donc dans la liturgie des heures. Alors il est temps maintenant de parler de ce qui est la matière principale de cette prière des heures, car si cette prière est d'abord un élan du cœur, de l'esprit qui réalise en nous la prière du Fils adressée au Père, elle a tout à fait un contenu, et un contenu qui est parfaitement, j'allais dire, humain, presque charnel, complètement terrestre, même si les psaumes sont aussi pleins des autres créatures. Alors, psaume, c'est donc un terme qui désigne en fait des prières qui sont rimées ou rythmées par des instruments, et en particulier des instruments à cordes. Psallein en grec veut dire jouer d'un instrument à cordes, guitare, sitar, luth, etc. Et dans les indications qui précèdent les psaumes en hébreu, nous avons la mention d'un certain nombre de ces instruments que les archéologues ont su reconstituer. On a même essayé de reconstituer à partir de ces indications cette sonorité brillante et aiguë à la fois qui désigne en hébreu les tehillim. Le verbe halel veut dire à la fois briller et résonner de façon aiguë. Les psaumes sont donc une prière brillante, une prière aussi qui est accompagnée normalement d'une musique, et c'est de là que vient effectivement le mot psalmodie. Et donc en réalisant la psalmodie, c'est-à-dire la prière des psaumes, ces poèmes qui sont accompagnés donc d'instruments principalement à cordes normalement, eh bien nous réalisons ce qui est la vocation première de l'homme, c'est-à-dire la louange reconnaissante. Alors, parmi les étymologies possibles, le mot juif, Yehoud, veut dire effectivement, parmi d'autres interprétations, le loueur, le louangeur, celui qui chante les louanges de Dieu, ce qui est le rôle principal de l'homme par rapport à Dieu, chanter ses louanges, pour tout un tas de raisons et dans tout un ensemble de circonstances que les psaumes finalement vont dérouler devant nos yeux, ou plutôt dans notre cœur. Les psaumes vont donc nous présenter d'abord un écho de l'histoire du salut. Et donc les psaumes sont en fait une initiation à l'ensemble du contenu de la Bible. Nous allons retrouver beaucoup d'éléments de l'histoire du salut, à commencer bien sûr par la création. Car la création, déjà dans le récit de la Genèse, est présentée comme un acte de libération accompli par Dieu par rapport au chaos, par rapport au tohu-bohu, par rapport à l'inorganisé, par rapport à ce qui est dépourvu de sens. Et nous avons d'innombrables psaumes, enfin il n'y en a que 150, mais beaucoup de psaumes qui, émerveillés devant ce don de Dieu, chantent la création. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il a fait les grands luminaires, le soleil pour dominer sur le jour, la lune et les étoiles sur la nuit, car éternel est son amour. Et cette création va être développée aussi avec ce que l'on peut appeler donc ces armées dans la Bible, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, le firmament, le vent, la neige, tout ce qui fait les météores au sens propre du terme, c'est-à-dire les diverses manifestations du temps, des saisons. Et c'est donc toute la création dans son foisonnement, dans son frémissement, qui est présentée dans les psaumes. Et nous allons y retrouver pratiquement toutes les catégories d'animaux. Il y a la licorne, il y a le basilic et le serpent sur lequel on peut marcher tranquillement avec l'assurance de Dieu. On peut marcher sur le lion et le scorpion. Nous pouvons admirer le pélican solitaire dans le désert lorsque nous sommes désolés et le passereau solitaire sur son toit. Nous pouvons admirer l'aigle, nous pouvons admirer les oiseaux des champs, l'herbe qui fane mais qui est habillée plus glorieusement que ne l'était Salomon. Nous avons les arbres des forêts qui chantent de joie devant le Seigneur. Nous avons bien sûr tout un univers bucolique avec le Seigneur qui est notre berger, qui nous conduit sur des prés d'herbes fraîches pour nous y faire reposer. Le Seigneur qui est notre berger, qui nous conduit vers le bon pâturage. Le Seigneur qui s'occupe aussi des petits du corbeau qui crient vers lui pour leur donner leur nourriture en temps voulu. Nous avons bien sûr la mer et tout son peuplement avec deux monstres qui symbolisent à la fois la captivité en Égypte et la mer qui est très sujet d'émerveillement mais aussi de crainte, Léviathan. Léviathan qui représente probablement le crocodile et Béhémoth qui représente probablement l'hippopotame. Nous trouverons bien sûr aussi le cheval lorsque dans l'histoire du peuple de Dieu, Moïse va libérer ce peuple en lui faisant traverser la mer Rouge pendant que le Seigneur jette à la mer cheval et cavalier. Et nous trouverons aussi de nombreux passages donc qui font se souvenir reconnaissant de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Et plusieurs psaumes vont nous raconter les épisodes des aventures d'Israël dans le désert avec les heures et les malheurs de sa fidélité ou de son infidélité avec tout ce va-et-vient entre Moïse, que Moïse plutôt accomplit entre Dieu et le peuple pour que, avec les fidélités et les infidélités, finalement, au bout de 40 ans de désert, le peuple arrive devant le Jourdain qu'il va traverser. Et nous avons aussi des évocations de la conquête de la Terre Sainte, comment le Seigneur va éliminer devant son peuple le Sihon, roi des Amorites, et Og, roi de Bashan, et tous les peuples de Canaan. Nous allons avoir, bien sûr, comme un écho de ces merveilles déjà accomplies par Dieu dans l'Exode vers le 13e siècle avant le Christ, toute la reconnaissance d'Israël pour la libération de l'exil, donc en 750 avant le Christ, bien sûr, donc lorsque la dynastie de Babylone va être remplacée par les Perses avec Cyrus et en 538, le peuple qui a perdu sa terre en 587, 49 ans après ce temps de pénitence, mais aussi d'enrichissement extrême au point de vue spirituel et théologique, le peuple va pouvoir revenir à travers le désert, et c'est ce que nous chantons beaucoup pendant l'Avent, en particulier en lisant Isaïe. Le peuple va pouvoir revenir dans sa terre et recommencer cette histoire qui va permettre à Dieu de se révéler non seulement pour ce peuple, mais à travers l'histoire de ce peuple, finalement, cette histoire d'Israël va rejoindre tous les éléments de l'histoire de tous les peuples et même de toutes les personnes. C'est donc ces grands événements de l'histoire du salut qui sont repris avec la prière de joie, d'espérance, avec les cris d'angoisse, les appels au secours qui vont finalement symboliser et représenter tout ce que notre cœur et tout ce que le cœur humain tout au long de l'histoire des hommes pourra ressentir, car Dieu, s'il s'est incarné dans le Christ, a commencé cette incarnation depuis bien longtemps, et à travers ce que la Bible nous relate du comportement de Dieu avec son peuple, eh bien, tous ces mouvements du cœur humain vont se retrouver dans les psaumes, et c'est pourquoi depuis donc nous 2000 ans et avant nous le peuple d'Israël depuis au moins 1000 ans avant nous, donc ça fait 3000 ans au moins que l'on prie les psaumes qui ont été écrits tout au long de cette histoire. Nous allons donc trouver, en plus des allusions assez directes à ces trois grands moments de l'histoire du salut, la création, l'exode, le retour d'exil, nous allons trouver d'abord la louange, l'admiration, la reconnaissance, qui sera parfois exultation et enthousiasme. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Il a jeté Pharaon et ses cavaliers dans la mer Rouge, car éternel est son amour. Et donc, on va citer toutes ces raisons que l'homme biblique et nous avec lui avons de rendre grâce au Seigneur pour les merveilles de la création, en particulier avec le psaume 104 qui nous décrit et qui est d'ailleurs un emprunt du peuple d'Israël à la culture égyptienne. L'auteur du psaume 104 est en fait le pharaon Akhenaton du 14e siècle avant le Christ, qui déjà rendait grâce au Dieu créateur pour toutes les merveilles de la création, ce Dieu qui a fait le soleil, la lune et les étoiles, mais aussi ce Dieu qui forme le poussin dans l'œuf de sa mère, ce Dieu qui se manifeste dans toute cette vie foisonnante qui est une multiple preuve de son amour pour l'homme. Donc louange, admiration, reconnaissance, reconnaissance aussi lorsque l'on est pardonné. Heureux le pécheur pardonné, relevé de sa faute. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as relevé, mes ennemis n'ont pas eu de quoi rire. Et nous trouvons aussi alors quelque chose de particulièrement choquant dans l'expression des psaumes. Je veux parler des psaumes imprécatoires. Et oui, dans le cœur humain, il y a la louange, la miséricorde, la bienveillance, la bonté, la charité, la miséricorde, et il y a aussi des imprécations. En particulier, la pire de toutes, c'est dans le psaume 135. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avons pendu nos harpes, et c'est là que nos geôliers, les Babyloniens, nous demandaient de chanter précisément des cantiques. Comment chanterions-nous un cantique de Sion sur une terre étrangère? Si je t'oublie Jérusalem, que ma langue se dessèche et que ma main droite ne soit plus opérationnelle. Et ce psaume, qui est un psaume très nostalgique, qu'a repris d'ailleurs Verdi dans Nabucco, dans le cœur des esclaves de cet opéra, eh bien, il se termine, ce psaume 135, très mal. « Heureux Babylone, qui saisira tes petits et leur brisera la tête contre le rocher. » Ce n'est pas très évangélique. Il y a un autre psaume aussi qui souhaite à un ennemi que sa femme soit veuve et que ses enfants soient orphelins et que la langue de tes chiens trouve sa pâture d'ennemi. Voilà qui n'est pas du tout dans le sens du Dieu de la miséricorde. Saint Paul VI, qui était un homme de haute culture et de grande sensibilité, avait fait supprimer dans la traduction des psaumes, en particulier dans les tomes de la liturgie des heures, ces versets imprécatoires. L'éditeur a eu la précaution de ne pas les supprimer complètement, mais de les mettre entre crochets. Et effectivement, dans la liturgie des heures célébrée en communauté, on ne dit pas ces psaumes imprécatoires. Eh bien, on a bien tort, parce que l'imprécation, ça fait partie aussi des mouvements de notre cœur. Et les civilisations orales nous apprennent qu'il vaut mieux dire des horreurs, ça empêche de les faire. Le fait de, par la parole, reprendre les offenses que nous avons subies et, ma foi, dans un premier temps, souhaiter la même chose à ceux qui nous les ont fait subir, eh bien, ça fait du bien. C'est ce que les Grecs appellent une catharsis, c'est-à-dire une purification. Et en proférant ces imprécations, les pères de l'Église ont trouvé deux solutions. La première solution, c'est de dire que ces imprécations ne s'adressent évidemment pas à des personnes humaines et évidemment pas à nos ennemis que l'amour évangélique nous invite à pardonner. Les imprécations s'adressent aux démons, à tous nos démons intérieurs, à tout ce qui est contraire à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et donc, ces imprécations s'adressent à nos défauts, à nos péchés, à toutes nos faiblesses dont nous demandons au Seigneur de nous délivrer. Ce sont donc des ennemis spirituels. Et la deuxième façon de lire correctement ces psaumes imprécatoires, c'est donc effectivement de faire mémoire, de mettre des mots sur les mots, des mots MOTS sur les mots MAUX que nous avons subis pour en quelque sorte nous en débarrasser et pour entrer dans une attitude qui ne confond pas l'offenseur et l'offense. Et si nous faisons mémoire, si nous reprenons par la parole, dans la prière, en présence de Dieu, les offenses qui nous ont été faites, eh bien, c'est pour nous inviter à ne pas confondre l'offenseur et l'offense et à pardonner à ceux qui nous ont offensés, si nous voulons que Dieu nous pardonne et si nous voulons être comme notre Père qui est dans les cieux, ce qui est la condition de notre entrée dans le royaume des cieux. Voilà donc le côté très positif de ces versets imprécatoires, qu'il faut bien sûr expliquer, et qui témoignent que la violence qui est dans le cœur des hommes doit être éradiquée par la parole et par la miséricorde. Nous allons trouver bien sûr dans les psaumes aussi beaucoup d'évocations de la liturgie, en particulier les psaumes des montées. Donc le pieux Israélite se présente au temple, maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem, Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est donc une évocation de ces innombrables liturgies qui se déroulaient dans le temple, et puisque la Jérusalem terrestre est l'image de la Jérusalem terrestre, c'est aussi le désir du paradis que nous pouvons mettre en mettant nos pas devant les portes de Jérusalem, en entrant dans les parvis du Seigneur pour célébrer la liturgie céleste. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Le précepte du Seigneur est sûr, qui rend sage les simples. Le long psaume 118, en plus de 150 versets, dit tous les bienfaits que représente le don de la loi pour son peuple. Alors nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais c'est une façon de rendre grâce au Seigneur pour toute cette conscience morale qu'il a mise en nous, pour tout le bien qu'il nous suggère déjà par notre simple humanité et pour toute cette longue éducation du peuple de Dieu que la loi a permise jusqu'à ce que notre loi devienne l'imitation du Christ. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et pour atteindre cette perfection, eh bien Moïse avait donné de la part de Dieu au peuple un certain nombre de préceptes qui étaient une organisation totale à une époque où on ne distinguait pas les diverses fonctions de la religion, de la politique, de la diététique, de la médecine, de tout ce qui, du droit. Tout cela était en quelque sorte harmonisé en étant attribué à une origine divine. Et au fur et à mesure que le peuple de Dieu a avancé, eh bien, le Christ et Saint Paul aussi nous a appris à rendre à César ce qui est à César, à la pharmacie ce qui est à la pharmacie, à la diététique ce qui est à la diététique, à la médecine ce qui est à la médecine et à Dieu ce qui est à Dieu, en sachant que Dieu était intéressé à la vie des hommes et donc a aussi son mot à dire dans tout ce qui fait le progrès humain dont il ne peut que se réjouir puisqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cette loi est donc présentée non pas comme un carcan, mais quelque chose au contraire d'extrêmement positif. C'est l'éducateur, comme dira Paul plus tard, la loi est le pédagogue, Dans le monde romain, le pédagogue était un esclave qui s'occupait de l'enfant pour l'amener à l'école, le ramener de l'école, lui faire faire ses devoirs. Et donc la loi est présentée comme étant éducatrice. Et puis, bien sûr, il y a des psaumes qui invitent à ne pas hésiter à crier vers le Seigneur et à le remercier. Alors nous avons en particulier ce beau psaume 21 que le Christ va émettre sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des maux que je rugis. Je suis entouré de fauves. Et donc, chaque fois que nous sommes en détresse, en angoisse, en position difficile, eh bien, nous avons beaucoup de versets de psaumes qui nous invitent à ne pas perdre courage et à crier vers le Seigneur sans perdre cœur. Nous avons aussi les psaumes de soulagement. Heureux le pécheur pardonné, heureux celui à qui Dieu n'impute plus sa faute. Et nous avons bien sûr aussi les psaumes de confiance. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Je tiens mon âme comme un enfant contre sa mère, comme un enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël dès maintenant et pour toujours. C'est donc tous ces mouvements du cœur humain que nous retrouvons dans les psaumes avec l'accompagnement donc de tous les compagnons de la création. Alors un problème se pose. Comment nous approprier les psaumes? Si le psaume de la louange du matin, du jour, nous présente un psaume d'exultation et de louange alors que nous sommes en pleine dépression, ou si nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur pour un malheur qui nous a été évité alors que nous nous trouvons précisément en plein dans le malheur. Comment entrer dans un psaume de louange si nous avons plutôt envie d'avoir des propos peu sympathiques envers le Seigneur dont nous pensons qu'il nous laisse tomber? Comment gérer cette différence? Alors bien sûr, il y a des jours où les psaumes qui nous sont proposés correspondent à notre état d'âme. Et à ce moment-là, bien, nous sommes heureux avec tous ceux qui récitent ce psaume sur la planète en même temps que nous, d'entrer dans la louange, l'action de grâce, la demande de pardon, l'appel au secours. Et si nous ne sommes pas sur la même ligne, eh bien, nous sommes invités à laisser décentrer notre prière. Car si c'est nous qui prions et qui nous associons à l'acte de prière, eh bien, c'est d'abord Dieu qui prie en nous, le Christ qui prie en nous, pour tous les membres de son corps. Ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans le danger, ceux qui sont dans la reconnaissance. Et donc, nous sommes invités à laisser décentrer notre ego, à nous démettre de cet état intérieur qui souvent nous emprisonne pour entrer dans l'angoisse, la louange, la reconnaissance, l'appel au secours des autres. Et c'est là que la prière des psaumes nous invite à dépasser notre propre moment pour insérer dans le temps que nous sommes en train de vivre l'éternelle présence de Dieu sans oublier ni nos misères ni les misères des hommes. Voyez donc comment cette prière des psaumes est aussi extrêmement humanisante et extrêmement éducative. Alors il est temps maintenant de décrire comment se passe pratiquement cette liturgie des heures. Il y a deux grands moments qu'on appelle les laudes. Laude veut dire louange, la prière du matin et la prière du soir, les laudes et les vêpres. Les laudes qui commencent d'abord par reconnaître que c'est Dieu qui prie en nous. On ne commence pas la prière comme ça, de but en blanc, sans demander au Seigneur d'ouvrir nos lèvres. Et c'est déjà un verset de psaume, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et puis l'on récite donc les psaumes introductifs qui nous rappellent les merveilles de Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, venons devant lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand Dieu au-dessus de tous les cieux, etc., etc. Invitation donc à entrer dans la louange. Nous avons ensuite une hymne, donc que nous appellerions plutôt, nous, avec nos mots modernes, un cantique, qui peut être un cantique moderne, où il y a bien sûr l'immense trésor de la tradition grégorienne avec ces belles hymnes du matin qui font allusion bien sûr au soleil levant et qui font toutes les corrélations possibles entre le soleil matériel et le Christ qui est le soleil de justice. Nous avons aussi adapté au saint que nous fêtons le jour ou au temps de l'Avent, temps du Carême, des hymnes qui nous rappellent ces particularités du temps liturgique que nous sommes en train de vivre. Nous avons ensuite trois psaumes qui sont donc toujours les mêmes, sélectionnés. Ensuite, un petit bout de lecture qu'on appelle le capitule. Puis nous avons un cantique évangélique, alors le Benedictus, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, qui se trouve dans l'évangile de Luc. Et nous avons la première prière d'intercession, avec des intentions de prière comme à la messe, qui nous sont proposées par le texte liturgique. Et bien sûr, nous y ajoutons nos propres intentions du moment. Ensuite, l'on récite le Notre Père. Et on termine par une oraison qui est souvent celle du début de la messe ou qui est celle du saint qui est fêtée au moment où l'on récite cet office. Donc l'office de vêpres, dont l'office de la louange du soir, louange vespérale, a exactement la même structure. Et au lieu d'avoir le Benedictus, on a le Magnificat comme cantique évangélique, dont le cantique de la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Alors pour le milieu du jour, nous avons aussi trois temps qui nous sont proposés au milieu de la matinée, qu'on appelle le tierce, donc vers la 9e heure, entre 9 et 10 heures, la prière du milieu du jour, entre midi et 1 heure, et la prière de nonne, donc la 9e heure romaine, qui est entre 14 heures et 15 heures. Il y a pour chacun de ces temps, de ces trois temps, des psaumes que l'on peut apprendre par cœur. Ce sont des petits psaumes qu'on peut réciter partout, dans la voiture, dans le métro, en arrivant au travail, en arrivant à la maison. Et ce sont surtout des psaumes des montées ou des psaumes de confiance dont la liturgie des heures nous propose. Alors après ces trois psaumes, il y a aussi un petit morceau de la parole de Dieu. Il peut y avoir aussi une petite intercession et l'oraison finale. Et puis, si nous voulons, nous avons aussi l'office des lectures. Alors là, c'est un petit peu plus ardu. Il y a toujours une hymne, il y a toujours trois psaumes, et puis une lecture tirée de l'Écriture. La réforme liturgique du Concile Vatican II a répercuté sur 2 ans la première de ces lectures pour justement mettre à la disposition du peuple de Dieu, comme d'ailleurs les 3 années liturgiques, un maximum de textes bibliques. Et la deuxième lecture est tirée soit des œuvres du saint que l'on est en train de fêter, soit des auteurs spirituels anciens ou plus modernes. Et puis il y a les complies. Alors complies, ça veut dire compléter, achever. C'est la prière du soir avec un petit temps d'abord où l'on fait une sorte d'examen de conscience de la journée, ensuite aussi une hymne, bien sûr, 1 ou 2 psaumes, et puis il y a donc le cantique évangélique, le troisième, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, donc qui visite et rachète son peuple, le cantique de Siméon que l'on trouve dans l'évangile aussi de Luc. Et puis, bien sûr, donc l'oraison et en général, pour conclure, une prière à la Vierge Marie. Alors, c'est un ensemble en totalité, si on veut le réciter un peu sérieusement, qui peut requérir entre 30 et 45 minutes. Les prêtres, hein, qui ont quand même des journées assez chargées, font leur maximum pour essayer de caser ces moments liturgiques dans une journée occupée et beaucoup de laïcs aussi y arrivent. Alors, que pouvons-nous faire raisonnablement? Si nous voulons nous attaquer, si l'on peut dire, à cette liturgie des heures, eh bien, je crois qu'il faut commencer tout simplement par les complies, c'est-à-dire c'est un petit office qu'on dit avant de se coucher. Et puis on peut ensuite se mettre à l'école de Magnificat. Je veux parler de ce manuel liturgique qui nous présente les lectures du jour, mais qui présente aussi des laudes et des vêpres plus courtes. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors une fois qu'on s'est apprivoisé au psaume, on peut peut-être commencer à réciter la prière du milieu du jour, et puis peut-être le dimanche, de façon préférentielle, ajouter aussi l'office des lectures. Et si l'on y a pris goût, eh bien, on peut quand même arriver à caser, si l'on peut dire, l'ensemble de ces beaux temps de la liturgie des heures pour accomplir cette sanctification du temps. Voilà cette structure. Alors, cette prière nous est proposée. Il faut savoir que les religieux apostoliques non prêtres ne sont tenus, si l'on peut dire, qu'à réciter les laudes et les vêpres et les complies. Donc, je pense que c'est accessible à tous, hein, pour faire partie donc de ce grand monastère, hein, qui est donc notre terre, notre planète, hein, où la liturgie des heures, hein, est ininterrompue, donc du matin au soir et du soir au matin, diffusée et diffractée sur tous les fuseaux horaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, en Europe, bien sûr, et même donc en Australie. Voilà cette prière qui nous est proposée. Alors, elle est constituée principalement des 150 psaumes. Donc, au tout début des monastères, hein, les pères en particulier de l'Église égyptienne réciter les 150 psaumes chaque jour. C'est un peu beaucoup. Après, on est passé plus raisonnablement aux 150 psaumes dans la semaine. Et la liturgie des heures, le bréviaire, nous propose donc de réciter chaque psaume au moins une fois par mois et d'autres qui reviennent de façon plus régulière. Et ces 150 psaumes ont donné le rosaire. Vous savez que le rosaire, normalement, est composé de trois chapelets, de 150 Ave Maria. Donc, dans les monastères médiévaux, tout le monde ne savait pas lire. Les frères lais, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas moines de cœur, savaient un peu les psaumes par cœur, mais pas tous. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, on a inventé pour les associer à la prière du cœur. Au lieu de réciter les 150 psaumes, de réciter les 150 Ave Maria, pas mécaniquement, mais comme vous le savez, en ajoutant à chaque dizaine une partie des mystères du rosaire, c'est-à-dire des éléments de la vie du Christ, des éléments de l'Évangile. Voilà comment les psaumes ont aussi été indirectement à l'origine de ce que nous appelons le rosaire ou le chapelet. Alors pour conclure, eh bien, les psaumes sont à l'origine de notre civilisation occidentale. Lorsque le pape Benoît XVI est venu à Paris en 2008, il a fait une conférence absolument magistrale au Collège des Bernardins devant l'intelligentsia parisienne qui a été stupéfaite d'apprendre que le lieu des Bernardins, donc, est un magnifique monastère restauré par le cardinal Lustiger, et qui est donc, je crois, du XIIIe siècle, que ces lieux, que l'on appelle les monastères ou les abbayes, ont été construits à cause des psaumes. La foi chrétienne est arrivée donc chez nous à partir du IIIe siècle, vers 250, un peu plus tôt à Lyon, un peu plus tôt même à Narbonne, au cours du IIe siècle. Et très vite, il y a eu donc cette institution des monastères où des chrétiens se sont rassemblés dans des lieux souvent peu intéressants au point de vue agricole et qu'ils ont complètement transformés. Alors, quelle était l'occupation des moines? Eh bien, les moines disaient les psaumes. Mais pour pouvoir dire les psaumes, il faut continuer à être vivant. Et donc, on va se mettre à défricher la terre, hein, et comme on est intéressé par toutes ces créatures, hein, que l'on célèbre dans les psaumes, eh bien, on va petit à petit inventer la pisciculture, hein, le soin du bétail, toutes ces inventions et toutes ces découvertes du monde agricole qui vont faire des monastères les pionniers du défrichement plutôt de la terre. Et comme les psaumes veulent dire quelque chose, eh bien, il a fallu que quelques moines apprennent à écrire et à lire pour pouvoir expliquer ce que l'on récite quand même 5 heures par jour au cœur. Et c'est là que sont nés des traducteurs, des bibliothèques. Et donc la culture gréco-latine en particulier a été sauvée car les copistes des monastères ne se sont pas simplement occupés des psaumes, mais aussi des autres livres de la Bible et aussi de toute la culture de leur temps qu'ils ont pu sauver. Et au fur et à mesure que l'Occident médiéval a pu s'ouvrir de nouveau à ses racines orientales, eh bien c'est dans les monastères qu'on s'est intéressé aussi aux autres cultures du monde, en particulier aux cultures orientales, où, grâce au lien par l'Espagne en particulier avec la culture byzantine, transmise en grande partie, mais pas uniquement, par l'intermédiaire des savants arabes. Ainsi, les monastères sont devenus des lieux de haute culture et avec les écoles cathédrales ont ainsi parsemé notre Occident médiéval et même notre Occident tout court de ces hauts lieux, non seulement de prière, mais aussi de culture et de civilisation qu'ont été les monastères. Voilà donc ainsi comment la liturgie des heures a façonné l'histoire, la géographie et la culture de notre pays. Et lorsque l'Occident s'est en quelque sorte répandu dans le Nouveau Monde et dans les anciens mondes, eh bien les monastères ont continué de s'implanter partout pour être des hauts lieux non seulement de spiritualité, mais aussi de civilisation. Donc merci à la prière des psaumes. Et pour conclure, je vais vous lire un autre passage du Magnificat de novembre 2020, pages 11 et 12, qui, sous la plume de Bénédicte Ducatel, nous décrit comment cette liturgie des heures est pour nous une liturgie du passage. Parce que la liturgie des heures est avant tout la prière que le Christ, uni à la communauté des hommes, fait monter vers son Père, elle est passage aussi de l'humanité vers la divinité. Pour entrer en liturgie, que l'on aille rejoindre une communauté ou que l'on soit chez soi, voire dans le métro avec son Magnificat, il est nécessaire de marquer une rupture entre nos activités et la prière. Le déplacement physique vers un lieu où le changement d'intention entre travailler et prier implique un déplacement intérieur, un passage du quotidien à la prière, un passage de soi à Dieu. Dans ces moments de passage, nous faisons l'expérience du mystère pascal, même de manière infime. Nous passons par une mort à nous-mêmes pour entrer dans la vie que Dieu nous offre. Cela ne se fait pas toujours sans combat, dont l'entrée dans le mystère pascal n'est jamais exempte. Il nous faut donc mourir pour vivre. Mais la vie que nous recevons ne nous appartient pas. Nous n'avons pas d'emprise sur elle, nous la recevons. Aussi apprenons-nous la démaîtrise, le lâcher-prise, comme on dit aujourd'hui, la résilience et la confiance. C'est Dieu qui mène la prière. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Demandons-nous au Seigneur, car il nous a assuré, ouvre ta bouche et moi je l'emplirai. N'est-ce pas là le chemin ordinaire de la vie chrétienne? Se laisser modeler de l'intérieur pour devenir devant nos contemporains d'autres Christ, porteurs de la vie de Dieu. Si la prière nous prend dans le monde pour nous amener avec le Christ en présence du Père, il faut aussi à un moment donné passer à nouveau de ce lieu de gloire vers le monde, où Dieu nous envoie témoigner de sa bonté, illuminée par la grâce reçue dans la prière, que nous en ayons conscience ou non. Nous retournons à nos activités en portant avec nous cet éclat de gloire divine qui transfigure toute chose. Notre être au monde en est transformé. Nous ne revenons pas au point que nous avons quitté. Nous rentrons dans le monde en ayant fait un pas vers le royaume. Transformés, régénérés, nous vivons le temps présent de manière nouvelle. Plus encore, en nous laissant travailler par les psaumes qui nous parlent du Christ et nous révèlent à nous-mêmes comme pécheurs, bénéficiaires du pardon et de la vie, en prenant en compte aussi les tristesses et les angoisses des hommes, autant que leur joie et leurs espoirs, nous permettons au monde de se tenir devant Dieu à chaque fois que nous-mêmes, membres du corps du Christ, nous tenons dans la prière notre devoir de louange tout en intercédant pour le monde. Il y va de la résurrection de notre monde que nous participions à la prière même du Christ à travers la liturgie des heures, en passant avec le Christ, en partageant sa Pâque, vous savez que Pâque veut dire passage, cette Pâque qui nous ouvre le ciel, nous faisons avancer le monde vers sa plénitude. La liturgie des heures nous le fait proclamer dans la foi et nourrit notre espérance de connaître la joie éternelle. Alors, bon travail pour entrer dans la liturgie des heures.